Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Colossiens chapitre 2, nous allons lire les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Il y a deux mots qui sont importants pour moi dans ces quelques versets, c'est les mots enraciné et fondé. Paul parle aux Colossiens après les avoir prêché l'Évangile et leur dit que quelque part, l'Évangile qui leur a emmenés les a placés sur un fondement, a posé leur vie sur un fondement, une fondation solide qui les permettra de continuer la course, de terminer la course, être enracinés. Tout de suite, c'est une image qui vient dans notre pensée. Quand on parle d'être enraciné, on a l'image d'un arbre, on a l'image d'un arbre avec des racines profondes, larges, qui s'étendent, qui entrent dans la terre, qui stabilisent l'arbre, qui le rend solide et qui l'emmène à faire face à tout vent, toute force et à porter des fruits. C'est ça que ça parle, d'être enraciné. Il parle aux Colossiens en leur disant que l'Évangile les a enracinés et les a fondés. Quand on parle de fondement, on parle aussi de choses sérieuses. Une des choses les plus importantes d'un bâtiment, d'une maison, d'une construction. Ça me rappelle quand on a venu construire, quand on commençait l'auditorium à Trianon, ça a choqué les gens de voir la grandeur des fondations. Les gens ne pouvaient pas croire, ils n'avaient jamais vu la longueur et la largeur et l'épaisseur des fondations, la quantité de béton qui ont été coulés, des camions et des camions dans une fondation. Un trou, deux, trois camions, quatre camions de béton dans un trou. Et quand on parle de fondation, on parle de solidité, oui ou non? On parle de ce que ça peut prendre. On parle de quelque chose de fort, sur lequel se posera beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Colossiens, il leur dit, vous avez été enracinés, vous avez été fondés en lui. L'Évangile a créé quelque chose dans la vie de ces chrétiens pour leur montrer quelle était leur responsabilité, quelle était la vie chrétienne, qu'est-ce que ça comprenait, qu'est-ce qu'ils devaient faire de leur vie. Quel était leur engagement envers le Seigneur? Quelle était leur union avec Christ? Où est-ce que ça les emmenait? La chose qui les garderait pour terminer la course? Parce que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui commencent et ne terminent pas la course. Ils commencent, ils s'engagent sur une route. Mais ils se perdent en route. Ils s'engagent sur d'autres routes. D'autres chemins. Si vous regardez le verset 4 de ce même chapitre, Paul dit, Paul a peur que les chrétiens soient trompés par des discours séduisants. Il y a une crainte dans son cœur que les chrétiens soient trompés. C'est pourquoi il leur rappelle. Il leur rappelle l'évangile qu'ils ont reçu. Et que quelque part, cet évangile les a fondés, les a enracinés en Christ. Ils ont accepté le message qui les a posés sur un fondement solide. Ils ont compris la vie chrétienne. Et je crois que chacun d'entre nous ce matin, Au fur et à mesure que nous entendons l'Évangile avec un cœur ouvert, avec un cœur élargi. Nous ne sommes pas là ce matin simplement pour venir écouter un sermon. Moi, je ne prêche pas de sermon. Mais nous sommes là pour entendre l'Évangile qui nous fortifie, qui nous rappelle des choses que nous avons déjà entendues, qui nous rappelle le chemin qui est devant nous, qui nous rappelle l'attitude que nous devons avoir vers les situations de la vie. L'Évangile est là toujours pour nous rappeler. Moi j'aime dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens étaient assis aux pieds des apôtres et des serviteurs de Dieu pour écouter tous les jours ils entendaient l'Évangile. Tous les jours ils étaient rappelés de leur engagement, de l'appel de Dieu. Tous les jours, la vision de l'Église était devant eux. Les serviteurs de Dieu les rappelaient la qualité de vie qu'ils devaient vivre. Et ils étaient de plus en plus enracinés, fondés, solidement ancrés dans un évangile qui les permettrait d'arriver jusqu'au bout, qui les permettrait de terminer la course. C'est ce qu'on veut entendre, oui ou non? Pourquoi commencer quelque chose pour ne pas finir? Et que la grâce de Dieu soit avec nous pour terminer la course. On en a bien besoin, croyez-moi. Nous avons tous bien besoin de la grâce de Dieu pour terminer la course, comme il le faut. Et Paul leur rappelle cet engagement. Est-ce que l'Évangile vous emmène à vous engager quelque part? Est-ce que l'Évangile n'est pas là pour vous rappeler certaines choses? La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. Oui, non. C'est pourquoi si votre vie est secouée par les paroles qui sont annoncées, ben rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Si vous avez passé à côté et que l'Évangile revient vers vous et vous rappelle vos responsabilités, votre engagement, votre cœur, la manière que le Seigneur nous appelle à vivre, rendez grâce à Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes pris facilement par toutes sortes de philosophies, de tromperies des hommes. Et non seulement cela, par les tentations de la vie, les circonstances de la vie, les épreuves, les difficultés, les challenges, les défis. C'est devant nous tous les jours, mes frères et sœurs. Tous les jours, c'est là devant nous. Nous savons comment marcher avec Christ. Nous savons quel est le style de vie que nous avons besoin de mener. Mais c'est affolant comment la chair nous pousse et nous entraîne loin du plan de Dieu pour notre vie, loin de nos engagements, loin de ce que notre cœur a répondu. Moi, je veux vous rappeler, mes frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition. Non, ce n'est pas de la religion. Nous ne voulons pas de la religion. Nous ne sommes pas intéressés à vivre comme les pharisiens. Quelque part, chacun d'entre nous, nous avons un témoignage, nous sommes sortis d'une tradition pour devenir libres dans le Seigneur. Vous connaissez la prière que le Seigneur a montrée aux disciples? Ce qu'on appelle le Notre Père. Vous connaissez ça? Moi, je ne suis pas là ce matin pour vous faire des grands enseignements sur le Notre Père, pas du tout. Quand Jésus a dit à ses disciples comment prier, il voulait leur montrer certainement qu'un jour, ils comprendraient qu'est-ce que ce serait la vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne serait? C'est tout, il n'y a rien d'autre là-dedans. Il leur demande, il leur dit, voilà comment vous devez prier. Et toute cette prière parle de quoi? Parle d'un cœur pur. Une prière qui cherche à plaire au Seigneur, qui demande au Seigneur de l'aider pour qu'il continue à lui plaire, pour que sa grâce soit là dans les moments de tentation, pour qu'il puisse garder un cœur pur. Vous savez, le psaume 73 est un bel exemple. Asaph était un lévite, un musicien, un chanteur. Le psaume 73, c'est le psaume d'Asaph. Asaph, à un moment donné, en regardant la vie des méchants qui prospéraient, qui avaient une vie facile, il avait laissé son cœur s'aigrir, devenir amer, parce que lui, il servait le Seigneur et il traversait des moments durs dans sa vie. Il ne comprenait pas comment les méchants et les pécheurs pouvaient prospérer et vivre bien, et que lui, il était tourmenté, il avait des situations dans sa vie qui l'écrasaient. Si vous allez lire le psaume 73, vous allez voir que ces choses-là ont causé Asaph de aigrir son cœur, de laisser l'amertume pénétrer son cœur. Il dit, lorsque mon cœur s'est grissé, parce que je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Vous savez, il commence ce psaume en exprimant comment le Seigneur l'a aidé à restaurer son cœur. Il dit, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Non ? Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Voilà comment il commence son psaume. Parce qu'il a traversé un moment dur. Il portait envie aux méchants, aux pécheurs, de voir le bonheur de ceux qui vivaient dans le péché. Et le verset 21, il dit, lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles. À un moment donné, il a réagi. Et le verset 16 nous dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Pourquoi je vous parle de cette chose-là? Moi, je veux vous rappeler, mes frères et sœurs, quand vous essayez de regarder la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de demander à Dieu de leur pardonner. De la même manière que Dieu les pardonne, de les pardonner de ceux qui le font du mal. Garde-nous dans la tentation. Que ton nom soit sanctifié, comment? Non mes frères et sœurs, écoutez. Comment est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié dans le monde? De quelle manière? Par quoi? À travers quoi? Comment est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié? De quelle manière? N'est-ce pas par la vie des chrétiens, comme vous et moi, qui sont continuellement sanctifiés par le Seigneur, travaillés par le Seigneur, qui se deviennent un exemple et un modèle pour le monde? Le Seigneur est en train de leur apprendre la vie chrétienne. Cette prière, c'est la vie chrétienne. C'est tout. Et nous sommes appelés à être de plus en plus enracinés, fondés, solidement ancrés en Christ. Pour ne pas seulement commencer la course et parler et avoir un beau langage, mais de vivre la réalité de l'Évangile. De le vivre pleinement. Les paroles ne valent rien. Absolument rien. Jésus disait à ses disciples de prier à Dieu afin de leur donner un désir de le plaire. Afin de créer en eux un désir de plaire à Dieu. Tout ce que Jésus voulait leur enseigner, que la voie chrétienne était de plaire à Dieu. Dans leur action, dans leur vie, dans leur langage, dans leur parole. De garder leur cœur. Tout le livre des psaumes, des hommes qui ont rencontré le Seigneur, ils ont compris qu'ils avaient besoin de garder un cœur pur. David dit, garde mon cœur plus que toute autre chose. Oui ou non? Oui. Regardez le livre des psaumes, vous allez voir les hommes qui ont connu Dieu. Ils avaient déjà compris que Dieu était intéressé avec leur cœur. Dieu n'était pas intéressé avec autre chose que premièrement leur cœur, leur état de cœur. Et quand nous sommes enracinés, fondés dans le Seigneur, en Christ, c'est le seul moyen pour nous de continuer à le servir avec notre cœur, un cœur pur. Non seulement avec un cœur pur, mais avec notre cœur. De faire tout ce que nous sommes appelés à faire avec notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Le psalmiste dit, louez le Seigneur de tout votre cœur. Oui, non. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. C'est ni une théorie, ni un principe, ni une technique. Étant toujours enraciné, est fondé en Christ. En d'autres mots, c'est ça qui nous permettra de faire face à la vie. C'est ça qui nous permettra de faire face à la tentation. C'est ça qui nous permettra de garder un cœur pur. C'est cela qui nous permettra de laisser le Seigneur faire l'œuvre qu'il a besoin de continuer de faire dans notre vie. Oui ou non? Vous voyez, le cœur de l'apôtre Paul dans les Épîtres, c'était toujours de préserver le peuple de Dieu, de toujours les encourager à regarder au plan de Dieu, à ce que Dieu s'attendait de leur vie, afin qu'ils soient préservés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par des vaines tromperies. Par la tradition des hommes. Et combien nous savons que l'ennemi veut faire de nous sa proie. Combien d'entre vous le savent que l'ennemi a des plans pour nos vies, a des stratégies qu'il veut mettre en place. Mais quand nous demeurons fondés, enracinés, ancrés en Jésus, sur ce fondement de l'Évangile, c'est cela qui nous permettra de garder la vision. Non seulement de garder la vision, mais de reconnaître ce qui vient de Dieu. Reconnaître ce que le Seigneur place devant nous. Reconnaître les situations dans lesquelles nous avons à faire face et de garder un cœur pur à travers ces situations. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont là ce matin, peut-être pour la première fois, ils visitent cette église. Et vous êtes né de nouveau depuis quelques jours, quelques semaines. Mais je vais vous encourager à comprendre que la vie chrétienne, c'est un don de votre vie. Le Seigneur est là pour solutionner beaucoup de vos problèmes. C'est vrai, ça c'est clair. Il vous aidera. Il sera là. Il vous retirera du plus grand trou. Il vous libérera de beaucoup de choses. Mais que vous sachiez dès le départ qu'il veut mettre un fondement dans votre vie, qu'il veut que vous sachiez clairement depuis maintenant que vous êtes appelé à lui donner votre vie. Que vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Que le Seigneur veut vous changer pour votre bien. Et cela va vous coûter le don de votre vie. Le don de votre vie. Faire Jésus-Christ sauveur et Seigneur n'est pas une plaisanterie. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas simplement un changement de certaines choses que nous voyons n'est pas bon ou que nous devons faire. C'est un don de notre vie. Et c'était ça le fondement. C'est comme ça que ces chrétiens étaient enracinés, fondés en Christ. Pour ne pas permettre aux gens de venir les tromper. Et qu'ils soient la proie des hommes qui cherchaient leur propre intérêt. La proie de la philosophie humaine. La proie du diable. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à lui donner notre vie. Et garder notre vie sur ce fondement solide, ancré, enraciné, affermi par la foi, l'apôtre Paul nous dit. Affermi par la foi. La foi pour notre vie. La foi pour toute chose. Pour la provision de Dieu. La foi pour le service de Dieu. La foi pour avancer, pour commencer, pour terminer la course. Paul est en train de leur encourager à persévérer, autrement ils tomberont dans un piège. Ils seront pris au piège. Demeurez, restez. Enracinés, fondés en Christ, affermis par la foi. D'après l'enseignement, d'après les instructions qu'ils ont reçues. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas seulement une nouvelle croyance. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à notre vie. Ça prend notre vie. Ça doit prendre notre vie. Et la vision du Seigneur doit captiver notre cœur. Nous tous, doit saisir notre cœur. Demeurez enracinés, demeurez fondés. Restez affermis. Ne bronchez pas. Ne bronchez pas. Mes frères et sœurs, c'est facile de compromettre. C'est facile de s'éloigner du chemin. Oui ou non? C'est facile de diluer l'évangile que nous portons et que nous voulons vivre. C'est facile. Vous savez, l'apôtre Paul voyait les dangers. Il voyait les dangers qui étaient devant les chrétiens. Il les a mis en garde souvent, souvent. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 20, le verset 17, Paul envoie chercher à l'église les anciens pour leur avertir du danger qui les guette. Il dit aux anciens de l'église, prenez garde à vous-même, prenez garde, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi berger, évêque, pasteur, ancien, pour paître l'église de Dieu. Car il s'est glissé, il dit, quelque part. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Hmm? Voyez, mes frères et sœurs, il y a des gens qui voient plus loin que vous. Il y a certains d'entre vous qui voient jusqu'à un mètre. Vous voyez votre vie jusqu'à ce soir seulement. C'est tout ce que vous voyez. Comment vous allez terminer votre journée maintenant? Quel est votre programme jusqu'à ce soir? Vous ne voyez pas demain, encore moins pour dans une semaine, encore moins pour dans un mois, encore moins pour dans un an. Mais dites-vous bien qu'il y a d'autres. Il y a d'autres qui voient plus loin que vous, pour même pour votre vie à vous. Il y a d'autres qui voient le danger qu'il y a pour votre vie. C'est pourquoi notre rôle, c'est de vous avertir. C'est pourquoi nous vous disons que Jésus retourne bientôt. C'est pourquoi on ne cesse de vous dire que les temps sont difficiles. C'est pourquoi on cesse de vous dire que l'iniquité va s'accroître. Et que ce sera plus difficile de servir le Seigneur dans 6 mois qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous dit ces choses-là. C'est pour vous permettre de réagir, de prendre conscience, de vous rappeler. De vous rappeler les paroles que vous avez dites. Voyez, Paul dit à Timothée, il dit « Combat le bon combat de la foi » dans le chapitre 6, verset 12. Il dit « Combat le bon combat de la foi » Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a beaucoup d'entre nous qui parlent de ce qu'on veut faire de notre vie, de nos engagements, de la manière qu'on veut s'engager dans l'œuvre de Dieu, oui ou non? De ce qu'on veut vivre avec le Seigneur, de ce que nous sommes prêts à faire. Témoigner. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En d'autres mots, Timothée a fièrement parlé de ce qu'il voulait accomplir et faire pour le Seigneur devant un grand nombre de personnes. Et je suis sûr que tous ici, il n'y a pas un seul qui n'a pas ouvert sa bouche un jour pour déclarer ce qu'il voulait faire pour le Seigneur. Oui ou non? Tous, sans exception. Oui, moi je vais faire ça. Oui, moi j'aime le Seigneur. Oui, moi je veux m'engager. Oui, moi je veux servir le Seigneur. Oui, je veux aller. Oui, je suis prêt à tout. Combien d'entre vous ont dit ces choses? Combien d'entre vous? Hein? Allô? Combien d'entre vous ont dit, ont parlé, ont confessé, ont fait un témoignage? Combien d'entre nous? Tous. Nous avons tous déclaré de notre bouche. L'ennemi, le diable, le monde, la chair, les pensées, les raisonnements, la philosophie, les traditions, la persécution, les épreuves, les difficultés, les défis, les manquements, les souffrances. Et alors, où est ce témoignage? Devant un grand nombre de témoins, un grand nombre, tu as fait une belle confession, alléluia! Je vais le servir le Seigneur jusqu'au dernier jour. Hein? Allô? C'est vrai ou non? Vous avez besoin de répondre à cette question, pas moi. Moi, je réponds pour moi, vous vous répondez pour vous. Ouais. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait un témoignage devant un grand nombre de témoins. Vous voyez, Paul voyait plus loin que Timothée. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Souvent on dit à certaines personnes, tu sais, ben... Mais je ressens que tu ne devrais pas faire ça. Je ressens qu'il y a un danger pour toi. Je ressens que ça, c'est pas bon pour toi. Je ressens que tu cours un risque de rentrer dedans. Je ressens que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans cette chose-là. Pourquoi? Pour rendre la vie difficile? Hein? Pour rendre la vie aux autres difficile quand on parle de cette manière? Pour quelle raison? La jalousie? Ben non. Pourquoi? On veut avertir. On veut avertir les dangers qu'il y a. Ça ne nous rappelle pas le témoignage que Jésus a fait, lui, devant Ponce Pilate? Il était clair, vrai, il a été jusqu'au bout. Et nous sommes appelés à terminer la course pareillement. Malgré nos imperfections, nos faiblesses, nos manquements, nos difficultés, tout ce qui peut être formé partie de nous. Moi, je veux vous dire une chose, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas de problème avec vos faiblesses. Il n'en a aucun problème. C'est pourquoi il faut que vous et moi, nous arrêtons de pleurer sur nos faiblesses et nos manquements et nos difficultés et nos erreurs. Parce que ce n'est pas son problème. La réalité, c'est que ça devient notre problème. Et il ne faudrait pas que ce soit notre fardeau. Ce que le Seigneur veut, c'est notre cœur. Avec tout ce que ça comporte dans notre vie. Tout. Tout. Tout ce qu'il veut, c'est un cœur. C'est pourquoi Paul, dans tous ses messages, il veut captiver, il veut essayer de gagner le cœur des chrétiens. Il veut essayer de gagner leur cœur. Afin qu'ils ne rentrent pas dans les problèmes, dans les pièges du diable. Et il leur dit, vous avez été affermis. Vous avez été fondés en Christ. Enracinés. Affermis par la foi. C'est pourquoi on a besoin continuellement de se retrouver avec le Seigneur, avec sa parole. Oui. Nos cœurs peuvent s'éteindre très facilement, être captivés par d'autres choses très facilement, très facilement. Que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, que le fondement qui a été posé dans notre vie n'est pas une plaisanterie. Non. La lumière que le Seigneur a emmenée dans nos cœurs n'est pas pour être pris à la légère. La révélation que Dieu nous permet d'entendre à travers différents serviteurs de Dieu n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour agrandir notre connaissance. Non, c'est pour nous aider à terminer la course. C'est pour nous aider à faire face chaque jour aux situations de la vie. C'est pour nous aider à demeurer unis avec Christ et de voir en lui tout. Tout ce que nous avons besoin. Tout ce qu'on peut désirer. êtes d'accord ou non? Moi, je veux vous encourager ce matin, je ne veux rien faire d'autre. Juste vous encourager à comprendre. Et à garder la vision. À garder la vision. Vous avez déjà regardé clairement les lettres que Paul a adressées à Timothée? Les lettres que Paul a adressées à Timothée, c'est rempli d'avertissements. Rempli. Rempli d'avertissements. Ouais. Des dangers. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas éviter ni éloigner de nous les choses que nous avons besoin de faire face. Et nous avons besoin d'avoir un cœur ferme. Nous avons besoin d'avoir un cœur établi. Nous avons besoin d'avoir une vie fondée dans l'Évangile. Dans l'Évangile. Éphésiens chapitre 4. Paul parle du plan de Dieu pour nous tous. Quand il parle des ministères, le verset 12 nous parle pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi, cela veut dire de cette manière, si vous parvenez dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. En d'autres mots, l'apôtre Paul n'écarte pas la possibilité d'être trompé, de s'égarer, de s'éloigner, de perdre la vision. Non, il n'écarte pas cette possibilité. Elle est là toujours, elle est tous les jours devant nous. Toutes les occasions sont bonnes. Et il nous parle du plan de Dieu. Où est le plan de Dieu? C'est que quoi? Nous parvenions à l'état d'homme fait, à la pleine stature de Christ. C'est ça qui va nous préserver contre la tromperie des hommes, contre les ruses du diable. Non? C'est ça qui va nous garder et nous préserver. Il voit loin. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas simplement que des messages qu'on entend, une prière qu'on fait au Seigneur. Non, c'est une vie. Construire sur ce fondement. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie ? Enraciné, fondé, pleinement établi, affermi dans la foi. Les moments sont durs. Moi, je ne sais pas pour vous si c'est plus dur qu'hier, hein, ou si c'est plus dur que l'année dernière, ou si c'est plus dur que l'année d'avant, mais en tout cas, pour moi, les choses deviennent plus dures. Je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais... Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez 20 ans, c'est la même chose. Si vous avez 30 ans, c'est la même chose. Et c'est notre devoir de vous avertir, de préserver ce que vous avez reçu et de continuer à travailler là-dessus et de permettre au Seigneur de continuer. Allons dire que ce que nous sommes aujourd'hui, quelque part, ne nous permettra pas de tenir ferme dans 5 ans. Ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui veut dire une chose, que nous avons besoin encore d'être affermis, de grandir davantage et de parvenir à une plus grande maturité pour faire face dans 5 ans. On est d'accord avec ça? Vous savez, quand Paul avait prêché l'évangile dans toutes ses églises, il avait posé le fondement dans toutes ses églises. Il y avait des hommes qui ont été après lui, qui ont parlé de l'évangile dans toutes ses églises. Mais pourtant, il ne cesse pas de les rappeler, de les encourager, de les avertir, de les instruire. Il ne cesse pas. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas suffisant pour demain. Il faut continuer. C'est pourquoi ce que vous mangez aujourd'hui n'est pas suffisant naturellement. Si vous rentrez chez vous et que vous allez prendre un repas maintenant, ce n'est pas suffisant pour demain, pour arriver jusqu'à dimanche prochain. Ce n'est pas suffisant. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas se fier sur ce qu'on a reçu jusqu'à l'heure, bien que ce soit bon, bien que ce soit un trésor, bien que ce soit quelque chose de réel et qui nous a gardés jusqu'à l'heure et qui a permis à la grâce de Dieu de continuer à se manifester parce qu'on comprend qu'est-ce que Dieu s'attend de nous et quel est le style de vie que nous avons besoin de vivre. Mais on a continuellement besoin encore un investissement de Dieu. Une nouvelle lumière, une nouvelle attitude de cœur. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Il jette ces quelques paroles au milieu, juste au milieu des avertissements. Il jette ça. Il dit, n'oubliez pas. Que vous avez été enraciné, fondé en Christ. En d'autres mots, continuez à vivre parce qu'il a été investi en vous. Et continuez. C'est clair, mes frères et sœurs, qu'ils voyaient plus loin que les chrétiens. Il y a certains d'entre vous qui ne voient rien. Vous ne voyez rien. Vous voyez pour quelques jours. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui prennent des mauvaises décisions dans leur vie. Ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ils persistent de faire certaines choses que le Seigneur les prévient. Attention! Mais certains persévèrent, certains persistent, certains continuent, parce qu'ils ne voient pas. Et puis un an après, on voit un homme ou une femme en pièces détachées, détruits, finis. Oui. C'est vrai quand le frère Roland partageait tout à l'heure comment la famille de Dieu, comment c'était bon d'être dans la famille de Dieu, comment bien nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, adoré le Seigneur, être reconnaissant pour la famille qu'il nous donne. Pourquoi ? Il me donne une famille, pourquoi ? Pour que je sois étranger ? Hein ? Non. les Colossiens avaient reçu, avaient accepté le message qui a posé la vie de tout un chacun sur un fondement solide. Ils avaient reçu ce message. Ils savaient comment ils avaient besoin de marcher avec le Seigneur. Ils le savaient. Moi, ce matin, je ne veux qu'une seule chose, c'est vous encourager. Parce qu'on a besoin. On a besoin de faire face tous les jours. Tous les jours. Et ce n'est pas le moment de jeter les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de laisser la raison nous conduire, ou les émotions, ou la chair, ou les plans du diable, ou les pensées de l'ennemi. Ce n'est pas le moment du tout. Chaque matin, on crie au Seigneur, c'est un jour de joie, un jour de victoire. Un jour de victoire. On a besoin de remporter une victoire. Dans quel domaine de notre vie, dans quelle situation de la vie. C'est un jour nouveau, c'est un jour où on a besoin de voir le Seigneur agir. On a besoin de voir le Seigneur intervenir. Demain matin, je vais me lever et je sais que le Seigneur aura besoin d'intervenir. Quelque part, dans quelque situation, dans ma propre vie, dans une situation, dans l'église, dans votre vie, dans n'importe quoi, le Seigneur aura besoin d'intervenir. Et si je n'ose pas me reposer sur le Seigneur, je serai confus totalement, ma pensée sera ailleurs, l'ennemi fera de moi sa proie, et je vivrai troublé, inquiet, dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude, tous les jours de ma vie. Et je vais vous dire une chose, mes frères, ça arrive. Ça arrive. Oui. C'est pourquoi on a besoin de s'attendre à quelque chose de la part du Seigneur, à son intervention. Nous tous. Pas un seul qui peut dire, mais moi, ok, moi jusqu'à ce soir, moi je suis correct, sans le Seigneur, pas de problème. Tu fais fausse route. Si tu penses comme ça, tu fais fausse route. Vous savez ce que l'apôtre Jacques dit ? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Voilà ce que la pensée que Jacques dit. Pour certains, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Hein ? Vous savez comment demain va être-vous ? Vous savez quand vous allez lever demain matin ? Quelle sera votre vie ? Qui connaît ? Qui connaît ? Personne ne connaît. C'est pourquoi jusqu'à ce que je me lève demain matin, j'ai besoin de crier au Seigneur et dire, Seigneur, ta main est sur ma vie, garde-moi, préserve-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant, j'ai besoin de toi. Tout à l'heure, j'ai besoin de toi encore. Et il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Hein? Et c'est l'apôtre Jacques qui dit ça. Et il dit, continue, il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous savez où je lis ça là, dans l'épître de Jacques, chapitre 4. Pour votre connaissance. Chapitre 4, je lis le verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise, c'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qu'il ne le fait pas commet un péché. Hein? Ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir un peu, hein? Comme quoi, la force de l'homme, les plans de l'homme, l'orgueil de l'homme. Reposer sur soi-même. Extraordinaire comment tout peut disparaître d'un seul coup. Hein? Il y a des gens qui ont perdu pendant les derniers 6 mois des millions et des milliards de dollars. Et d'euros et de livres sterling et je ne sais trop quoi encore. En un mois, leur trésor et le portefeuille a diminué de 50, 60, 70% en un mois. Ne me demandez pas comment, ça je ne connais pas. Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Oui. C'est vrai. Et grâce à rendu à Dieu, lui, il nous a sauvés. Nous sommes ses enfants. Hein, et nous pouvons marcher en union avec lui et se reposer en lui et continuer sur notre route et demeurer ferme. Demeurer ferme. Rester sur ce fondement. Ne pas s'éloigner. Ne pas permettre un moment, une situation de nous dévier. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Une petite route. Mes frères et sœurs, il y a trop de choses. Il y a trop. Il y a trop de choses autour de nous. Il y a trop. Il y a trop pour se plaire à soi-même, pour se reposer sur soi-même, pour dépendre sur soi-même. Il y a trop. Moi, pour moi, il y a trop. Il y a trop tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps trop. Il y a trop de tentations, il y a trop de situations, il y a trop de choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on est témoin. Il y a trop. Pour ne pas être sûr de rester sur ce fondement, de demeurer sur ce qui nous a été gracieusement donné. Il y a trop tous les jours. Vous savez, si vous ne réalisez pas qu'il y a trop, c'est que vous êtes quelque part d'autre. Vous êtes sur un chemin qui n'est pas clair. Vous ne réalisez pas ce qui est autour de vous. Si vous ne ressentez pas que c'est trop. Vous comprenez ce que je dis quand on dit que c'est trop? Hein? C'est comme si nous sommes entourés. Entourés. C'est comme si on est dans une prison, mais nous sommes libres, hein, on comprend. On est entouré de choses toute la journée, tout le temps, partout. C'est pas le moment. C'est pas le moment de dire je peux. C'est tous les moments sont propices aujourd'hui pour dire je ne peux pas. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ça je peux dire. Il faut se ramener, retourner, non pas à la raison, mais retourner dans l'esprit. Rester dans l'esprit. Ne jamais croire qu'on peut. Dangereux. C'est une des simples raisons pourquoi l'apôtre Jacques donne un avertissement aux trafiquants et aux riches. Allez lire le chapitre 4 de l'épître de Jacques, vous allez voir qu'est-ce que Jacques parle concernant les riches. Je ne suis pas contre les riches, je suis pour les riches, moi. Moi, je suis pour les riches. Je suis pour les riches. Je suis pour les riches généreux. Je suis pour les riches qui vivent dans la libéralité. Je suis pour les riches qui investissent dans le royaume de Dieu. Je suis pour les riches qui donnent. Oui. Mais j'ai peur pour ceux qui sont riches et qui ne tombent pas dans la catégorie de ce que je viens de dire. Oui. Attention à notre propre sécurité. C'est pourquoi il faut être affermi, enraciné, fondé en Christ et en Christ seulement. Personne n'est arrivé. Non, on n'est pas là encore. C'est vrai, on n'est pas là. On lutte un peu à gauche, à droite, oui. Hein, on prend une béquille de temps en temps, hein, on prend quelque chose de temps en temps pour essayer de sortir de notre trou, de notre problème, de notre situation, de notre difficulté. C'est vrai, c'est vrai. Mais où est notre vision? Où est notre vision? Les disciples ont dit au Seigneur, « Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. » Ils n'ont pas demandé grand-chose, ils disent, donne-nous la foi. La foi en lui. La foi pour dépendre de lui. La foi pour croire qu'il peut. La foi pour croire qu'il est suffisant. Qu'il peut tout. Qu'il peut tout. Difficile de croire ça aujourd'hui pour nous, c'est vrai. C'est difficile. On n'est pas arrivé encore. Mais si nous nous affermissons et qu'on reste sur ce fondement et que notre cœur s'élargit comme ça et qu'on est prêt, à continuer, on est prêt à accepter encore, on est prêt à recevoir encore de la part du Seigneur, on va y arriver. On va y arriver. Il est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Il est bon. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il est bon. Amen. Allez, on se met debout.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragés. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepip, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet, reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.